Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web graphite.net. Je suis Quentin Duchemin et je suis en direct en studio avec quatre étudiants et étudiantes de l'Université de Technologie de Compiègne. Elsa, Camille Paul Dauphin, Marion Fournier et Hippolyte, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Et on se retrouve aujourd'hui pour une série d'émissions autour du cours WE01, Questionner le web, de l'Université de Technologie de Compiègne, dont le contenu est librement accessible sur librecours.net. Aujourd'hui, les étudiantes et étudiants viennent présenter le résultat de leur recherche du semestre, articulé autour de grandes problématiques reliées au web et plus généralement au numérique. Avec les idées d'éducation populaire et d'esprit critique en tête, chaque binôme va vous proposer un passage en trois temps. D'abord, vulgarisation d'un concept du cours, ensuite une synthèse d'un article scientifique ou d'investigation, et enfin une articulation critique du concept et de l'article. Pour cette première émission, vous allez découvrir deux facettes du web. D'un côté, la culture libre incarnée par Wikipédia et attaquée par de nombreux acteurs, et de l'autre, les pratiques des géants du numérique qui rendent addicts et leurs origines méconnues. Elsa, Camille, c'est à vous.
Salut Camille, comment tu vas ?
Salut Elsa, ça va et toi ?
Bah pour être honnête, pas terrible. Je viens de recevoir les retours de mon enseignant sur mon devoir de recherche bibliographique, et il a pas du tout apprécié que j'ai cité Wikipédia comme source.
Ah, bah je comprends sa réaction. Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative en ligne. Donc tout le monde peut contribuer et modifier le contenu. Pour des travaux académiques, j'avoue que je privilégie des sources plus institutionnelles, comme des articles de presse ou des émissions de radio, qui me semblent plus fiables.
Oui, c'est souvent ce qu'on reproche à Wikipédia. Pourtant, je trouve qu'on sous-estime cette source.
Ah bon ? Pourquoi tu penses ça ?
Beaucoup d'étudiants pensent comme toi, que le contenu est plus fiable sur un média institutionnel que sur Wikipédia. D'après des chercheurs de l'Université du Nil, au Niger et de l'Université d'État du Taraba, en 2018, 50,8% des étudiants nigériens priorisaient des articles de journaux comme source pour leur recherche, suivi par 20% de livres en ligne ou encore 13% de thèses. On se rend donc bien compte que les étudiants accordent plus de confiance à des organismes privés pour la recherche de contenu en ligne. Alors qu'au final, la fiabilité du contenu ne dépend pas du fait que le média soit privé et donc soumis à des droits d'auteur ou qu'il soit public et sous licence libre comme Wikipédia. Mais dans un premier temps, est-ce que tu es vraiment à l'aise avec le concept de droit d'auteur et de licence libre ?
La notion de droit d'auteur, c'est quand quelqu'un crée une œuvre, un texte, une musique ou un film et ses droits sont automatiquement protégés par la loi, c'est ça ?
Exactement. En France, on distingue deux grands types de droits. Le droit moral, qui garantit que l'auteur soit toujours reconnu comme l'auteur. Tu devras donc toujours le citer si tu utilises son travail. Il est inaliénable, dure toute la vie de l'auteur et se transmet à ses ayants droit. Mais il y a aussi le droit patrimonial. Il permet de contrôler la reproduction, la diffusion ou l'adaptation de l'œuvre. Celui-ci s'éteint 70 ans après la mort de l'auteur. Jusque-là, tu devras passer un contrat avec lui pour être autorisé à utiliser son œuvre.
Donc, si j'utilise une œuvre de Mozart, par exemple, dans une émission de radio, j'ai le droit car il est mort il y a plus de 70 ans.
Oui, mais attention, tu peux jouer la partition car elle est dans le domaine public. Mais si tu choisis une interprétation particulière, elle peut être protégée. Il faut donc veiller à ce que l'enregistrement lui-même soit libre de droit.
Ah, bon à savoir. Va falloir que je ressorte mon violon alors.
C'est ça.
Je comprends mieux la notion de droit d'auteur maintenant. Mais pour en revenir à Wikipédia, tu peux pourtant utiliser son contenu comme tu le souhaites.
Exact, car il est placé sous licence libre. Cela signifie que les auteurs donnent à l'avance leur accord pour que d'autres personnes utilisent, modifient et partagent leur contenu.
Ah, donc c'est un contrat entre l'auteur et l'utilisateur du contenu pour délimiter ses droits.
Oui, ce principe a notamment été largement popularisé par Richard Stallman, un informaticien qui militait pour les logiciels libres. Il a conçu dans les années 80 la GPL, General Public License. Appliquée à un logiciel, cette licence permet à tout le monde de l'utiliser, d'en étudier le fonctionnement, de le modifier ou de redistribuer librement ses versions.
Et Wikipédia fonctionne selon ce principe ?
Oui. Le code qui fait tourner Wikipédia est libre de droit. On peut donc dire que Wikipédia est conçu sur un logiciel libre. Mais comme tu l'as dit précédemment, le contenu de Wikipédia est aussi libre. Il repose sur une autre licence, la Creative Commons by SA, qui permet notamment la fameuse réutilisation du contenu. Si tu veux plus d'informations sur tes droits d'accès avec cette licence, je te donne rendez-vous sur le site Creative Commons. C'est là que je suis allée chercher la majorité de mes informations.
Merci pour l'info. Et donc ici, on ne parle pas que de logiciels libres, mais de culture libre, c'est bien ça ?
Exactement. Mais la culture libre, c'est un peu plus que du contenu sous licence libre. C'est aussi une communauté et des valeurs en faveur du partage de l'information. Et c'est totalement ce qui se passe sur Wikipédia, qui permet à chacun de participer à son contenu. Donc oui, on peut dire que Wikipédia rentre dans le concept de culture libre.
Et comment je peux savoir qu'un contenu est libre ou non ?
Le bon réflexe à adopter, c'est généralement d'aller voir tout en bas des pages web. Si une licence est indiquée, elle précise ce que tu peux faire ou non. En son absence, le contenu est probablement soumis à des droits d'auteur classiques.
Bon, je vais faire clairement plus attention à tout ça lors de mes prochaines recherches. Et tu as un site à me conseiller pour approfondir le sujet ?
Oui, je te recommande le site librecours.net, en particulier la rubrique W1. C'est une mine d'infos sur le sujet.
J'irai voir, merci. Si je résume bien, une des grandes différences entre Wikipédia et les médias traditionnels, c'est cette question de droit. Mais pour revenir à ton projet, je comprends que ton professeur soit prudent. Puisque tout le monde peut écrire sur Wikipédia, comment savoir si l'information est véridique ?
Justement, c'est une vraie question. Le caractère collaboratif de Wikipédia peut effectivement rendre l'encyclopédie vulnérable à la désinformation. Il y a d'ailleurs une étude qui a été menée en 2025 par des chercheurs de l'université Nazarbayev, au Kazakhstan, qui compare l'efficacité de Wikipédia à celle de supports plus traditionnels, comme les livres, pour transmettre des connaissances. Les résultats montrent que les personnes ayant appris via Wikipédia ont plus de probabilités de retenir des informations erronées que celles ayant utilisé un livre.
Donc l'enjeu, c'est d'identifier ces informations incorrectes et d'éviter qu'elles soient intégrées par les contributeurs.
Pour ça, Wikipédia encourage fortement la citation des sources. Il y a même des outils intégrés à l'interface de rédaction pour insérer facilement des références et des bandeaux. Signale également quand une page manque de sources fiables.
Donc les lecteurs comme les contributeurs sont avertis quand une information n'est pas sourcée ou quand elle mérite d'être vérifiée ?
Exactement. Tu connais peut-être la ACM Web Conference. C'est un événement qui suit chaque année les évolutions du web. Eh bien, un article publié dans les actes de l'édition 2023 montrait que le besoin de référence, c'est-à-dire le pourcentage de phrases non sourcées sur Wikipédia, a diminué de 20% sur les 10 dernières années. Cela montre que les informations sont donc de plus en plus réfutables sur Wikipédia.
Ah oui, c'est encourageant. Mais réfutable, ça veut dire quoi au juste ?
Ça veut dire qu'on a la possibilité de contester l'information en consultant les sources indiquées. Donc oui, on peut repérer plus facilement ce qui est faux.
Et ce n'est pas toujours le cas dans les livres, les encyclopédies papier ou certains médias, où les sources ne sont pas toujours visibles ou explicites.
Exactement. D'ailleurs, tu devrais écouter la chronique de Tanguy Pastureau sur France Inter, « Je tente une semaine sans fake news ». Il y avoue lui-même avoir relaté de fausses informations à l'antenne. Et il y précise que certains médias se basent eux aussi sur Wikipédia.
Attends, on va l'écouter ensemble.
Vas-y Tanguy, Pastureau. Allez, bravo.
Bien, cette semaine, je vais essayer d'être plus au point que la semaine dernière parce que j'ai vraiment été nul. Toutes ces années de carrière pour arriver à ça avec les sous du contribuable, en plus, c'est consternant. Je ne mérite pas d'être adulé à ce point-là, d'être devenu cette passion française. Et là, Sylvie Vartan se dit sans doute, mais qui est-ce ? Un pastécule, une légende, ça a le don de vous remettre à votre place. Je suis plus à l'aise quand on reçoit la bande à Fifi. Alors, je vous explique, Sylvie, et à vous aussi, les gueux. Mardi dernier, j'ai fait une chronique sur Anastasia Colosimo, conseillère presse de Macron. Macron, vous vous souvenez, c'est ce monsieur qui avait plein de fans et désormais plus du tout. Il a tellement la vie de Larousseau au Ménélic qui va finir sur la tournée des années 90. Alors qu'à cette époque-là, il n'était même pas actif, à part sexuellement, puisqu'il avait déjà ses cours de théâtre avec Brigitte, qui se disait « Bah dis donc, ce ganaré, il est là, joli petit boule. » Enfin, c'est là que je réalise que j'imite très mal Brigitte Macron. Super. Bref, dans la chronique de mardi, j'ai dit que Madame Colosimo avait travaillé avec Adèle Von Rett, notre directrice, la seule fan de Sophocle à mettre dans sa grille des youtubeurs. Voilà. J'avais eu cette info sur Wikipédia. Source fiable. Et là, en direct, Nagui, vous m'avez repris, ce qui pour moi a été une humiliation. Donc jamais tu refais ça, sinon je t'envoie mes gars. D'accord, méthode Hanouna. Non, parce qu'Adèle Von Rett, vous avez envoyé un SMS vous dire que c'était une fake news. Et là, je m'en suis voulu, parce que l'humour, c'est de la précision. Or, Colosimo et Von Rett n'ont jamais travaillé ensemble.
Donc, si je comprends bien, ce n'est pas la plateforme qui fait la vérité, mais bien le contrôle des sources, même sur Wikipédia.
C'est exactement ça.
En parlant de Wikipédia, ça me fait penser à un article que j'ai lu récemment qui s'intitule « Worldwide Wikipédia, pourquoi il faut à tout prix défendre Wikipédia ?» écrit par Olivier Ertscheid, un maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Il explique pourquoi Wikipédia, en tant que plateforme collaborative et libre, est aujourd'hui plus que jamais un espace précieux, mais aussi très attaqué.
Ah oui ? Je suis curieuse, qu'est-ce qu'il dit ?
Eh bien, il rappelle que Wikipédia, contrairement à une encyclopédie traditionnelle, n'a pas pour but de figer la connaissance dans le marbre. Il parle d'un encyclopédisme d'usage. La connaissance y est vivante, évolutive, est construite collectivement par des milliers de contributeurs. Contrairement aux encyclopédies des Lumières, le partage des savoirs n'est pas réservé à un groupe d'experts du monde académique ou scientifique, mais au contraire à tout le monde. C'est ce qu'il appelle la babélisation des expertises.
Attends, je comprends pas bien. Quelle est la différence entre cette connaissance évolutive et le savoir des experts ?
Attends, on va prendre un exemple. Prenons le cas d'un vélo. Avant, un groupe d'experts aurait défini ce qu'est un vélo en termes de matériaux, de construction, de mécanique. Aujourd'hui, Wikipédia permet aussi d'expliquer comment on fait du vélo, de le montrer en mouvement, dans ses usages sociaux et ses évolutions techniques. On peut aller plus loin dans la diffusion du savoir. L'auteur parle du fait que Wikipédia se base sur le principe de vérifiabilité et pas de véracité. Il n'y aurait pas une unique et même vérité figée dans le temps qui serait universelle sur laquelle se baser.
Ah ok. Mais donc il arrive qu'il y ait plusieurs versions ou plusieurs points de vue sur un même sujet ?
Exactement. L'article parle même de guerre d'édition, où des contributeurs débattent et corrigent des articles en temps réel. Wikipédia a cet objectif de recherche d'une version équilibrée et la plus neutre possible. Pour appuyer cette neutralité, parce que toi comme moi et comme la communauté qui gère Wikipédia, nous savons que le contenu n'est pas parfait, tu peux avoir accès à tout l'historique des modifications de chaque page. C'est justement cette transparence qui fait la force de Wikipédia.
Mais du coup, je comprends pas bien. Pourquoi Wikipédia est attaqué ?
Alors, dans un premier temps, l'auteur pense que c'est parce que beaucoup ne connaissent pas bien son fonctionnement. Il l'accuse d'être un espace de désinformation et dénigrement, comme ce que moi j'ai pu penser ou encore ton prof.
Alors que l'important, c'est la réfutabilité de l'information. Mais il y a une autre raison ?
Oui, dans l'article que j'ai lu, Olivier Hershey explique que Wikipédia est aussi attaqué parce que certains acteurs veulent contrôler l'accès au savoir. Le savoir de Wikipédia, vivant et accessible par tous, dérangerait ceux qui préfèrent garder la main sur des sujets sensibles ou politiques.
Tu veux dire des pressions idéologiques ?
Oui. Dans l'article, l'auteur reprend les accusations d'Elon Musk, qui accuse Wikipédia de biais idéologique juste pour la discréditer. Selon Elon Musk, ce serait une entreprise partisane entièrement vouée au wokisme et à l'extrême gauche. Il l'a même nommée Wokpédia.
Après, c'est peut-être vrai, non ?
D'après l'auteur de l'article, il n'y a aucune étude sérieuse qui le prouve. Au contraire, Internet et les plateformes numériques seraient plutôt de droite, ce qu'il justifie dans un autre article, d'ailleurs. Il affirme que si Wikipédia a attaqué, c'est justement parce qu'elle résiste aux offensives de ces mouvements conservateurs et d'extrême droite, qui cherchent à imposer leur propre vision du monde. Pour Hershey, défendre Wikipédia, c'est défendre un espace de résistance intellectuelle et démocratique.
Je vois, pour lui, Wikipédia est une rempart contre la montée de l'autoritarisme. Mais il justifie ça comment ?
Il s'appuie sur les 14 signes du fascisme définis par Umberto Eco, un écrivain, philosophe et sémioticien italien. Hershey explique que Wikipédia s'y oppose, notamment en défendant la pluralité des opinions, en refusant la vérité unique imposée par une autorité centrale et en permettant des débats structurés et apaisés.
Donc en résumé, l'auteur voit Wikipédia comme un outil contre la manipulation idéologique, parce qu'elle repose sur la transparence et la confrontation des points de vue, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ce qu'il développe. Et il va plus loin, il alerte aussi sur les campagnes de harcèlement contre les contributeurs, par exemple avec des pratiques comme le doxing.
Le doxing, c'est quoi ?
C'est quand on révèle publiquement des informations personnelles d'un contributeur, comme son nom ou son adresse, pour le mettre en danger ou le faire taire. Ça peut vraiment décourager des bénévoles de continuer à contribuer, surtout sur des sujets sensibles ou controversés.
Mais comment Wikipédia peut gérer tout ça ? Il y a quand même des règles, non ?
Oui, c'est ce qui est assez impressionnant. Wikipédia a mis en place un système de régulation. Par exemple, il y a des règles éditoriales très strictes pour garantir la neutralité des articles. Quand un contributeur intervient trop souvent sur un sujet controversé, on lui demande de diversifier ses contributions. Par exemple, il ne peut pas consacrer plus d'un tiers de son activité à ce sujet-là.
Ah ouais, c'est bien pensé. Mais au final, toutes ces accusations représentent-elles un vrai danger pour Wikipédia ?
Oui, et c'est pour ça que l'auteur de l'article veut le défendre. Selon lui, c'est un outil fondamental pour un web libre et égalitaire qui garantit à tous l'accès à l'information tout en protégeant la diversité des points de vue. C'est un vrai bien commun numérique.
Je comprends mieux maintenant. Wikipédia, c'est plus qu'un site où on peut juste piocher des infos.
Mais tu sais quoi ? Je me demande si ces concepts ne vont pas plus loin que ce qu'on pense.
Tu veux dire quoi ?
Peut-être que Wikipédia, c'est un outil bien plus puissant qu'on ne le croit dans la lutte contre l'autoritarisme. Pas juste pour les valeurs de culture libre qu'il défend avec son contenu libre et sa communauté engagée, mais aussi par la structure même que prend ce site, son architecture physique.
Oui, parce qu'il faut rappeler que Wikipédia n'est pas qu'une simple encyclopédie en ligne. C'est une plateforme conçue sur un logiciel libre, MediaWiki. Tout le monde peut donc télécharger, modifier et réutiliser le code source. Par exemple, c'est ce qui a été fait avec le wiki des assos à l'UTC. Il fonctionne sur le même principe. N'importe qui peut contribuer, éditer et collaborer. Mais en quoi ça peut permettre de résister au contrôle de l'information ?
Justement, c'est ça qui est fort. Si le BDE de l'UTC a pu reprendre le code de Wikipédia ou un similaire pour créer un wiki adapté à ses besoins, une sorte d'encyclopédie spécialisée, alors n'importe qui peut le faire aussi. Dans l'article dont je t'ai parlé, l'auteur imagine un scénario où quelqu'un, comme Elon Musk, essaierait de racheter ou de saboter Wikipédia, comme il l'a fait avec Twitter.
Sauf que là, ça ne serait pas possible aussi facilement. Grâce à la licence libre de MediaWiki, même si quelqu'un voulait prendre le contrôle ou le fermer, il ne pourrait pas empêcher les gens de copier le site et ainsi de recréer une autre version ailleurs.
Exactement. Même si Wikipédia subissait une prise de contrôle autoritaire, la communauté pourrait recréer la plateforme à l'identique avec toutes les données déjà sauvegardées. Tout le contenu est archivé régulièrement.
Mais c'est ce qui s'est passé avec OpenOffice, non ? La communauté a pu créer LibreOffice, un logiciel libre, à partir du code de OpenOffice.
Ah oui, c'est vrai, j'avais pas fait le lien. Mais pourquoi la communauté avait eu besoin de recréer OpenOffice ?
De ce que j'ai lu sur Framablog, OpenOffice était une version libre du logiciel StarOffice, détenu par Sun Microsystems. L'objectif était d'attirer des utilisateurs avec une version gratuite de leur logiciel, OpenOffice, pour qu'ils adhèrent à la version payante StarOffice. Or, Sun Microsystems s'est ensuite fait racheter par Oracle en 2009. L'intérêt de Oracle pour Sun Microsystems portant sur un autre logiciel que StarOffice et sa version libre, la communauté craignait alors que l'entreprise ne soutienne pas le projet et ne permette donc pas à StarOffice et OpenOffice d'évoluer pleinement. Donc pour garantir le développement indépendant et communautaire de OpenOffice, ils ont préféré lancer LibreOffice.
Et donc ils ont été contraints de changer de nom.
Oui, car ils n'ont pas réussi à obtenir le fait qu'Oracle leur cède le nom et ont donc dû nommer le logiciel LibreOffice. Mais en conclusion, donc si la communauté du logiciel libre MediaWiki était préoccupée, elle pourrait aussi donner naissance à une nouvelle version de Wikipédia avec un autre nom.
Ah oui, la communauté peut avoir un réel impact quand il s'agit d'un logiciel libre. Donc Wikipédia, c'est bien plus qu'une encyclopédie en ligne, accessible et modifiable par tous. C'est une manière de construire, de partager et de protéger la connaissance ensemble, de façon ouverte et transparente.
Et la défendre, c'est défendre l'idée que la connaissance doit rester libre et accessible, et que la technologie peut être un outil de liberté, pas de contrôle.
Merci beaucoup Elsa et Camille pour votre présentation. On va passer au deuxième binôme. Je vous laisse le temps tranquillement de vous installer. Il y a un petit changement de casque et de micro à faire. Et j'ai l'impression que vous êtes prêts et prêtes. Marion et Hippolyte, c'est à vous.
Merci Quentin. Donc, je vais vous parler tout d'abord du concept de captologie. Donc, apparu pour la première fois dans les années 90, le concept de captologie désigne l'étude des technologies numériques conçues pour influencer les comportements et les attitudes des individus. Elle s'intéresse à la manière dont les interfaces, les applications, les objets connectés ou même les algorithmes peuvent être programmés pour persuader, souvent à des fins commerciales, éducatives ou sociétales. Pour donner une première intuition du sujet dont on parle, on peut prendre l'exemple de Snapchat. Cette application de partage de photos éphémères affiche un emoji flamme à côté du profil des personnes avec qui on a échangé des photos pendant plusieurs jours d'affilée. Tous les jours, le compteur augmente à la manière d'un score dans un jeu vidéo. Quand la série est sur le point d'être brisée, un emoji sablier s'affiche pour alerter les utilisateurs. Dans une étude menée sur 2500 adolescents belges en 2023 par deux chercheurs, Van Essen et Witzel, ils ont constaté que cette mécanique, pourtant anodine, en apparence, renforce à elle seule l'usage problématique des smartphones, l'anxiété de ratage et les difficultés à maintenir son attention sur les tâches que l'on veut faire. Parmi des gens qui nous écoutent, il y a peut-être des utilisateurs de Duolingo où vous devriez reconnaître le même genre de technique. Elle utilise la fonction des streaks dans le but d'inciter les personnes à utiliser l'application tous les jours, à moins de ne perdre, comme sur Snapchat, sa série de flammes si on ne fait pas sa leçon tous les jours. Tout cela a un but, c'est que l'utilisation de l'application soit quotidienne et qu'elle en devienne une habitude. Donc la captologie, ce terme, il a été inventé par Brian Jeffrey Fogg, c'est un chercheur à l'université de Stanford dont l'objectif était de comprendre comment les machines pouvaient nous persuader d'adopter certains comportements sans contrainte ni pression. Contrairement à ce que cela pourrait nous laisser penser, Fogg n'a pas inventé ce concept dans le but de manipuler l'opinion publique. Il défend au contraire un usage éthique et bienveillant de la captologie. Ainsi, les technologies persuasives peuvent être utilisées à des fins positives. Aider les patients diabétiques à suivre un traitement, inciter les gens à épargner ou encore encourager des comportements écologiques. Ce domaine se rapproche de la théorie des nudges, dit coup de pouce, qui propose des incitations douces pour guider les décisions des individus sans les mettre sous contrainte, obligation ni menace de sanction. À titre d'exemple, l'imprimante configurée par défaut en recto verso pour économiser du papier, les messages écrits sur les escaliers dans les gares pour inciter à marcher plutôt qu'à utiliser l'escalator, ou aussi les faux insectes dans les urinoirs pour orienter la visée et améliorer l'hygiène. Tous ces exemples sont des techniques de persuasion issues de la théorie du nudge. Voici d'ailleurs un exemple concret d'une méthode de captologie sur une application. C'est Thibaut Renard, consultant sur les questions de risque numérique du think tank Cyber Circle, qui en parle dans une vidéo de YouTube.
Les méthodes de captologie à l'œuvre dans Tinder, par exemple, c'est comme une machine à sous. Vous rejouez dans l'espoir de gagner. Et là, ce que vous espérez gagner, c'est une magnifique femme ou un magnifique homme, selon votre choix. Et vous avez toujours envie de connaître le profil suivant. Et donc, vous ne vous arrêtez jamais en fait, de swiper à droite ou à gauche parce que vous espérez que vous allez avoir l'homme ou la femme de votre vie qui va arriver. Et donc, typiquement, ça, c'est une méthode de captologie inspirée des machines à sous.
En 2014, Nireyal, un ancien élève de Fogg à Stanford, publie un livre, Hooked, dans lequel il indique comment créer des produits de type habit forming, c'est-à-dire des produits qui permettent de construire des habitudes. C'est un best-seller qui a été lu par des entrepreneurs de la tech, et depuis l'apparition de son livre, sa méthode est devenue centrale dans la captologie. Elle y décrit d'ailleurs les étapes qui permettent à une application de devenir une habitude, voire une addiction, comme on a pu écouter avec l'exemple de Tinder. Dans un premier temps, il faut donner un signal externe, ça peut être une notification, une icône, une alerte. Dans un second temps, il faut donner une action simple et rapide à l'utilisateur. Par exemple, la récupération de récompenses quotidiennes sur des jeux vidéo, comme les coffres quotidiens sur Clash Royale, ou aussi le fait de devoir s'occuper quotidiennement de ces Sims, qui peuvent tout simplement mourir si on ne s'occupe pas assez d'eux. Ensuite, on donne une récompense variable. Donc ça peut être une alternative entre gemmes et monnaie virtuelle dans les jeux vidéo, par exemple. Et en dernier point, c'est l'engagement. Donc ça peut être le paramétrage, la création, la personnalisation. Par exemple, dans les plupart des jeux vidéo, il y a une évolution de notre propre partie, comme sur Minecraft, avec l'évolution de notre propre monde. Ce cycle répété crée alors en l'utilisateur un usage automatisé, jusqu'à ce que ce comportement devienne spontané, sans intervention externe. C'est ainsi que naissent des produits dits « habit forming », où l'on est dépendant. Certaines plateformes vont plus loin et exploitent des leviers émotionnels puissants pour renforcer l'addiction, comme le scroll infini sur TikTok, ou aussi la lecture automatique en fin de vidéo YouTube. Et donc, après avoir défini ce qu'est la captologie et montré comment elle influence nos usages numériques, on va s'intéresser maintenant à un domaine où cette influence prend un nouveau sens, la transition écologique. Un article récent explore justement ce lien entre numérique et environnement.
Donc, comme l'a dit Hippolyte, nous allons maintenant nous intéresser à l'article « Écologisation par le numérique » publié en 2023 dans la revue Réseau. Il s'appuie sur plusieurs recherches en sciences sociales pour analyser le rôle que joue aujourd'hui le numérique dans la transition écologique. Les technologies numériques sont de plus en plus présentes dans les démarches environnementales, mais elles ont aussi un impact non négligeable. La fabrication des équipements, l'extraction des ressources et la production d'environ 50 millions de tonnes de déchets électroniques chaque année. Malgré ces effets, le numérique permet de mieux comprendre notre environnement. Grâce à des capteurs, à des modèles informatiques et à de grandes bases de données, on peut suivre l'évolution du climat, mesurer la qualité de l'air ou encore observer la biodiversité. Ces données sont devenues essentielles pour établir des règles, fixer des seuils d'émissions et surveiller certains polluants. Dans certains cas, les entreprises sont même tenues de rendre publiques leurs données. Par exemple, après la catastrophe industrielle de Bhopal, une loi américaine a obligé les industriels à déclarer leurs émissions dans une base appelée Toxic Release Inventory. Ce système a permis aux associations de suivre plus facilement les rejets polluants, jusque-là invisibles. Le numérique intervient aussi dans la vie quotidienne, bien sûr, à travers des outils conçus pour encourager des gestes plus responsables. Certains donnent des informations pratiques, d'autres proposent des alternatives de transport, facilitent l'accès à des circuits courts ou rappellent des éco-gestes. À l'aide de rappels, d'alertes ou de comparateurs, ces dispositifs orientent les choix des usagers selon leur impact environnemental. Pour illustrer concrètement cette idée, écoutons maintenant un extrait d'un reportage France 3 réalisé à Amiens, présentant le fonctionnement de l'application Clink, dédiée au recyclage des bouteilles en verre.
Pour chaque bouteille en verre déposée dans ce conteneur, des points crédités sur l'application grâce à ce dispositif installé sur plus de 200 collecteurs sur les 500 de la métropole amiénoise. Une bouteille en verre jetée équivaut à un point, du moins en théorie, quand l'application n'omet pas d'en comptabiliser comme aujourd'hui. Les points sont ensuite transformés en bons d'achat.
Il y a des gens qui se déplacent, qui habitent en campagne. J'ai eu des cas comme ça. Les gens se déplacent parce qu'ils veulent trier le verre. Ça leur apporte des points et ça leur permet d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat chez les commerçants.
À Amiens, plus de 200 offres de commerçants sont disponibles, en ligne ou en magasin. La gérante de cette boutique de chaussures propose 10% de réduction pour 45 points. Un service gagnant-gagnant.
Des nouveaux clients qui sont arrivés, ce qu'ils nous ont découvert. Ils ont découvert l'application, la nouvelle génération, les nouveaux parents qui sont un peu plus éco-responsables. Alors, des nouveaux clients, on en a facilement 3-4 dans le mois. Et après, on a nos clients réguliers qui viennent.
Donc, comme vous avez pu l'entendre, l'utilisateur, au travers de cette application, va déposer ses bouteilles dans des bornes connectées. L'application associée va permettre ensuite de suivre l'ensemble des dépôts enregistrés, d'accéder à des données telles que le nombre de bouteilles triées ou les émissions de CO2 évitées et de consulter les classements entre usagers. Des messages personnalisés peuvent également être envoyés pour encourager la continuité du geste. Le système repose ainsi sur l'enregistrement, la visualisation et la valorisation des actions réalisées. Mais ces outils reposent souvent sur une vision particulière de l'utilisateur. Un individu rationnel, autonome, réactif à l'information et supposé faire les bons choix s'il dispose des bons indicateurs. On retrouve souvent cette logique dans les interfaces. Ajustement de trajet, comparaison de consommation énergétique ou mise en valeur des bonnes pratiques. Dans les faits, les effets de ces dispositifs varient beaucoup. L'accès à l'information ne suffit pas toujours. Les habitudes, les contraintes sociales, économiques ou le cadre de vie jouent un rôle important. L'impact est souvent plus fort lorsqu'un soutien collectif ou une dynamique d'échange existe autour de ces outils. Enfin, certaines initiatives citoyennes vont plus loin. Elles utilisent ces technologies pour produire leurs propres données, construire des cartes locales ou interpeller les autorités. À la suite de Fukushima, par exemple, face au manque d'informations officielles, des citoyens, des activistes et des hackers ont mené leurs propres mesures et créé des cartes de radiation à partir de sources croisées.
Donc mettre en lien captologie et transition écologique permet de mieux comprendre comment les outils numériques influencent aujourd'hui le comportement des responsables. Si les techniques de persuasion développées dans le cadre de la captologie ont d'abord été principalement appliquées dans la tech avec un but commercial, elles se retrouvent désormais dans des contextes à visée sociétale. L'écologie en est un exemple parlant. Les dispositifs numériques, analysés dans l'article « Écologisation par le numérique », traduisent cette évolution. Ils mobilisent des mécanismes typiques de la captologie – feedback, récompense, rappel, classement – mais au service d'une cause perçue comme d'intérêt général. L'objectif affiché est donc d'accompagner les usagers vers des comportements plus respectueux de l'environnement, sans contrainte directe. Cette captologie, à visée collective, soulève plusieurs questionnements. D'abord, elle interroge la façon dont le comportement écologique est conçu. Dans beaucoup de ces dispositifs, l'action individuelle est au cœur du changement. Recycler une bouteille, limiter ses déplacements, éteindre une lumière. Autant de gestes encouragés par des interfaces qui attribuent des scores, délivrent des comparaisons ou formulent des conseils personnalisés. Cette approche met en avant l'idée d'un individu autonome et rationnel, capable de faire les bons choix au quotidien. Mais en se concentrant sur les comportements individuels, elle risque de faire oublier que les enjeux écologiques dépendent aussi de la dynamique collective et de facteurs structurels.
Ensuite, le recours aux logiques persuasives dans ce contexte soulève une question d'ordre éthique. Dans quelle mesure est-il légitime d'utiliser des outils de modification comportementale pour promouvoir des bons comportements, même lorsqu'ils servent une cause comme l'écologie ? Le fait que l'objectif soit noble suffit-il à légitimer les méthodes employées ? L'exemple de l'application de recyclage de bouteilles illustre bien cette tension. L'interface est conçue pour rendre le geste de tri gratifiant, mesurable et valorisant. Mais derrière cette logique se pose la question de la finalité. Est-ce que l'individu trie pour participer à une démarche environnementale ou pour obtenir une récompense immédiate. Et dans quelle mesure ce type de solution peut-il encourager un engagement durable une fois la récompense disparue ? Enfin, cette rencontre entre captologie et écologie pose la question du pouvoir d'agir. Si les individus sont ciblés par ces dispositifs, quelle place leur reste-t-il dans la définition des normes et des choix collectifs ? Autrement dit, agir, oui, mais selon quelles règles ? Fixé par qui ? Et avec quelles possibilités de discussion ou de réappropriation ? L'article mentionne des initiatives citoyennes qui produisent leurs propres données ou contestent certaines mesures. Cela soulève une autre piste. Peut-être que si les citoyens étaient davantage impliqués dans les décisions publiques ou si le fonctionnement réel de ces applications était plus transparent, certains comportements écologiques ne nécessiteraient pas d'incitation extérieure. Ils pourraient alors s'inscrire plus naturellement dans une dynamique collective perçue comme juste et partagée.
Merci beaucoup Marion, merci Hippolyte pour ces réflexions très stimulantes et on arrive déjà à la fin de cette première émission qui pour rappel est le fruit du travail des étudiantes et des étudiants du cours WE01 à l'UTC et du projet librecours.net. Elle était diffusée en direct depuis une studio de la radio Graphite le 11 juin 2025 et vous pourrez la retrouver prochainement en podcast sur tube.picasoft.net avec l'ensemble des sources utilisées. Merci pour votre écoute, bon après-midi, au revoir à toutes et à tous.